Annette et le criminel, chapitre 1er. Monsieur Luc Joachim Gérard entra en qualité de sous-chef à l'administration des droits réunis aussitôt que cette branche du service des contributions fut organisée. Et on aura sur le champ une première idée fort claire du caractère de Monsieur Gérard en annonçant qu'en 1816, il était encore sous-chef à la même administration. Alors il comptait 29 ans de service consécutif, qu'aucun chef de bureau de pension n'aurait pu lui disputer, car M. Gérard eut toujours le soin de tenir ses certificats en règle, et nulle administration ne possédait d'employés aussi exacts et aussi minutieux. Depuis l'an 3 de la République, M. Gérard avait adopté un costume dont il ne se départit jamais, et tous les matins, à 9h03, les habitants de la vieille rue du Temple voyaient passer l'honnête sous-chef, marchant le même pas, portant un chapeau à la victime et un gilet jaune, un pantalon et un habit couleur marron arrangés avec une telle symétrie que jamais l'habit, non plus que le gilet, ne se dépassait l'un l'autre, et l'on ne reconnaissait les limites du pantalon et de l'habit que par une chaîne d'acier, au bout de laquelle la clé de la montre avait pour compagnon un petit coquillage blanc tacheté de brun. Dans les premiers temps de son union avec Mademoiselle Jacqueline Servigné, Madame Gérard mettait la tête à la croisée et suivait des yeux son Gérard jusqu'à ce qu'elle l'eût perdu de vue. Mais cette attention conjugale était tombée en désuétude autant que nous avons à peindre, et si quelqu'un regardait alors par la croisée, ce ne pouvait être qu'Annette Gérard, la fille unique, l'enfant chéri de ce chaste couple, qui avait 20 ans durant cheminé dans le même sentier, sans avoir jamais nui à personne, ni cherché à couper à droite et à gauche les branches de ses voisins pour se faire un fagot d'hiver. C'était la crème des bonnes gens du quartier, les héros de la bonhomie et les plus anciens locataires de leur maison. Jamais le propriétaire n'aurait conçu la pensée de les en chasser. Ils en étaient les piliers protecteurs. Arrivé à son bureau, de temps immémorial, M. Gérard mettait son habit marron dans une armoire et prenait le dernier habit marron auquel il avait accordé les Invalides, en le consacrant au service du bureau. Là, il était au centre de son existence, car il avait fini par se faire un véritable plaisir des occupations de sa place, et lors de sa séduction, l'espoir d'avancer ne lui aurait pas fait donner le pas à un dossier ou à une affaire sur d'autres. Il avait l'amour de son état, et ses papiers, ses cartons, étaient rangés avec une grosse élégance, avec une rigide propreté, qui sentait l'artiste bureaucrate. Satisfait d'exercer son empire par des circulaires sur les tabacs et par les commissions dont il chargeait ses garçons de bureau, il n'avait point d'ambition, ne comprenait jamais ce que c'était qu'une intrigue, et durant tout le temps qu'il siégea sur son fauteuil en bois de chêne peint en acajou, couvert en maroquin qu'il avait vu de couleur verte et à clous dorés, il n'eut jamais d'ennemis, connut quelques amis et servit toujours d'hôtel conciliatoire aux divers partis, pour lesquels il était comme une borne placée au milieu de l'arène qu'on se partageait. Il avait sur la figure son caractère écrit. Deux grands yeux bleus bien ronds, un visage aussi rond que ses yeux, le front sans aucune saillie, le nez gros par le bout et nul à la racine, les lèvres épaisses et faciles à garder la même expression, qui tenait le milieu entre un rire complaisant et une grimace de bonté un peu niaise. Enfin, ses cheveux étaient toujours collés contre les tempes et formaient deux boucles éternelles au-dessus de son front. Il ne connut jamais la folle dépense de déjeuner à son bureau. Du moment qu'il eut sa place, il accoutuma son estomac à aller de 9 heures à 4 heures sans rien prendre. Et pendant que les employés déjeunaient, il lisait le journal. Ce fut en 1817, après avoir déposé le journal des débats sur le bureau du chef, qu'il trouva une lettre venant du bureau du personnel. Le pauvre homme avait alors 30 ans de service. Il ouvrit la lettre fatale, et après l'avoir lue, il lui prit un éblouissement, comme à un homme qui voit un précipice. Dans cette lettre, il se trouvait l'objet de l'attention spéciale de Monsieur le directeur général des contributions indirectes, qui lui donnait le conseil de demander sa retraite, attendu que sa présence à l'administration devenait inutile et même impossible, en ce que son fauteuil n'était pas assez large pour le contenir, lui et Monsieur de la Barbotière, ancien receveur des droits du grenier à sel de Brive-la-Gaillarde. Quel coup de foudre ! À peine le père Gérard eut-il annoncé ce qui lui arrivait, que tous les employés du bureau accoururent, et chacun, l'entourant, s'écria « Pauvre père Gérard !» L'ex-sous-chef, en voyant les marques de l'intérêt qu'on lui témoignait, fut attendri et serra la main de ses employés. Tous faisaient une véritable perte, car nul doute que Monsieur de la Barbotière ne serait pas aussi indulgent que son prédécesseur, et ne s'aperçut de tout ce que le bon Gérard palliait. En effet, si quelque jeune homme arrivait à midi, ou restait quelques jours sans venir, « Faut que jeunesse s'amuse !» disait Gérard au chef. Si quelque surnuméraire pliait sous la besogne, le sous-chef l'aidait de sa longue expérience. Aussi, chacun lui promit de s'occuper avec activité du règlement de sa pension, et lui tint parole. Pour le pauvre bonhomme, il était étendu sans force devant son bureau, n'osant regarder ses cartons et ses papiers, et gémissant sur sa vie future et sur un coup aussi imprévu. Monsieur Gérard croyait toujours être sous-chef, comme un mourant croit qu'il doit toujours vivre. Vers 4 heures, après avoir bien réfléchi à tout le vide qu'il allait trouver dans l'existence, après avoir songé à la réduction que cette retraite opérerait dans ses dépenses, après avoir calculé de quelle manière il apprendrait cette nouvelle à Madame Gérard et à sa chère Annette, un furet de surnuméraires qui s'était glissé au personnel vint lui apprendre qu'on lui accordait une indemnité préliminaire de 6 mois de traitement. Cette nouvelle jetait quelques baumes sur la plaie, et le père Gérard faisait déjà l'emploi de cette somme en la consacrant au voyage que sa femme méditait depuis 20 ans. Voyage tant de fois désiré et tant de fois remis. Lorsque tout à coup, un coup terrible fut porté au père Gérard. La porte s'ouvre, et un monsieur, d'une 40aine d'années, au visage sec, un peu hâve, habillé tout en noir, ayant une queue disposée en crapaud et des cheveux bien poudrés, entra et s'annonça pour être Monsieur de la Barbotière. À l'aspect de son successeur, et en comparant la maigreur à l'honnête rotondité qui emplissait son pantalon brun, Monsieur Gérard jeta un regard de compassion sur ses papiers et ses cartons, que son successeur avait l'air d'avaler d'une seule bouchée. Et, lui montrant le fauteuil, il n'eut que la force de lui dire « Monsieur, voilà. » Et il n'acheva pas, implorant par un regard le secours du chef de bureau. Ce dernier installa la Barbotière, et Gérard, après avoir salué tout le monde, se retira, le cœur navré, avec la ferme croyance que tout irait à mal aux droits réunis, et que l'on mettait toutes les administrations de France à feu et à sang en les livrant à des inconnus. Ce fut ainsi qu'il chemina à travers les rues de Braque, du Chaume et des Quatre Fils, vers le second étage du numéro 131 de la vieille rue du Temple, où l'on n'était guère prévenu de la fatale nouvelle. L'appartement était composé d'une antichambre modeste, d'un salon à deux croisées, ensuite duquel était la chambre conjugale avec son cabinet, car l'appartement d'Annette se trouvait séparé par l'antichambre, et elle couchait dans une jolie pièce parallèle au salon. La cuisine était au-dessus, et, en regard de la cuisine, il y avait un autre logement occupé par M. Charles Servigné, neveu de Mme Gérard et cousin d'Annette. Ce jeune homme, âgé de 27 ans, était fils d'un commissaire de police à Paris. Il avait fini son droit, comptait parvenir et brûlait d'être l'époux d'Annette. Aussi était-il presque toujours chez M. Gérard, qui le voyait avec plaisir. Ce jeune homme avait été grandement obligé par la famille Gérard pendant le temps qu'il faisait ses études et son droit à Paris. C'était une chose toute simple, puisqu'il était leur parent. Néanmoins, si l'on réfléchit à la modicité de la fortune de M. et Mme Gérard, on conviendra que ce n'est pas une chose ordinaire que d'avoir, pendant 8 ans, un jeune homme presque tous les jours à sa table et de l'aider souvent en mainte et mainte occasion. Charles était de Valence, patrie de sa tante, Mme Gérard. Son père mourut de bonne heure à Paris, et sa veuve, trop pauvre pour y vivre, s'en retourna à Valence avec une fille, en laissant Charles aux soins de sa tante. Mme Gérard le mit au lycée, en payant souvent les quartiers de sa pension, car Mme veuve Servigné n'était pas assez riche pour en faire les frais à elle seule. Elle se saignait bien pour envoyer de temps en temps quelques petites sommes insuffisantes, mais les bons Gérard achevaient le reste pour procurer une belle éducation à leur neveu. Charles fut donc élevé avec Annette, et dès leur enfance, ils eurent l'un pour l'autre beaucoup d'amitié. Cette amitié fut du côté d'Annette la tendresse d'une sœur pour son frère, et du côté de Charles Servigné un penchant décidé, de manière qu'à l'âge de 18 ans, Annette pouvait bien se croire de l'amour pour Charles et Charles pour Annette. Quand Charles sortait jadis du collège, Annette et la domestique allaient souvent le chercher. Elle avait été la confidente de ses chagrins et sa protectrice auprès de son oncle et de sa tante. Charles, ayant compris de bonne heure l'ordre social, avait vu qu'il n'y aurait jamais de ressources pour lui que dans sa science et l'intrigue. Aussi avait-il fait d'excellentes études. Le hasard le servit même bien. Il possédait un bel organe, une figure assez heureuse, mais où un observateur aurait remarqué peu de franchise, beaucoup d'ambition et les plus heureuses dispositions pour sa profession d'avocat. Une langue dorée, une manière insidieuse et complaisante d'envisager les choses, une logique serrée, mais facile à tout justifier, le travail prompt, la conception vive, enfin, un de ces caractères dont on ne peut comparer la souplesse qu'à celle de l'eau qui se glisse dans toutes les sinuosités d'un rocher en en prenant les formes, également propre à couler sur un sable fin et à menacer de son écume les abords d'une montagne, à ravager une prairie comme à la féconder. En ce moment, ils étaient réunis tous les trois et attendaient M. Gérard pour dîner. Mme Gérard, femme d'une 50aine d'années, respectable et n'ayant pour tout défaut que ces petits travers par lesquels nous devons tous payer notre tribut à l'imperfection, était vêtue dans son genre comme son mari dans le sien. Un bonnet de tulle brodé, orné de fleurs artificielles, lui enveloppait la figure en se rattachant sous le menton. Un faux tour, exactement frisé de même depuis 10 ans, cachait quelques rides, et une redingote à collet montant et de mérinos rouge ou bleu composait sa toilette. Elle était assise devant une table à ouvrage et raccommodait, à l'aide de ses besicles, les bas de Monsieur Gérard, tandis qu'Annette, de l'autre côté, ourlait un mouchoir à son cousin, qui marchait à grands pas dans le salon, les bras croisés et parlant assez haut. « Je vous assure, ma tante, disait-il, que mon oncle a eu grand tort de ne pas retirer de la chancellerie les pièces dont il avait appuyé sa demande pour obtenir la croix de la Légion d'honneur, car il s'y trouve des certificats constatant que le citoyen Gérard a offert un cheval à la Convention et l'habillement de 3 gardes d'honneur à Sa Majesté l'ex-empereur. Et au moment où l'on va épurer toutes les administrations, si quelqu'un de la chancellerie trouve ces renseignements, pour peu qu'il ait quelques cousins à placer, il fera facilement passer mon oncle pour un jacobin et un bonapartiste. Avec cela, la pendule que voici. » Et il montrait la cheminée du salon. « À un aigle !»« Ah ! » s'écria Madame Gérard. « Cet aigle y est depuis 1781. Nous avons acheté cette pendule à la vente du duc de R. »« Cela ne fait rien, ma tante. Vint-il du mobilier du roi, cela n'en est pas moins un oiseau prohibé. Et dans les circonstances où nous sommes, il faut de la prudence. Un moine doit chanter plus haut que son abbé. Or, quand nous avons été chez Monsieur de Grandmaison, le chef de division, « avez-vous remarqué que Mademoiselle Angélique, sa fille, a fait enlever les abeilles qui entraient dans cette ruche d'acajou, dont le dessus lui sert de pelote et dont l'intérieur forme une boîte ?»« Ah !» s'écria Annette, « j'entends le pas de mon père !» Et elle courut ouvrir elle-même la porte de l'appartement. Monsieur Gérard entra, l'air décomposé. Il déposa sa canne à sa place habituelle, plaça son chapeau sur le piano de sa fille, s'assit sur un fauteuil, et, lorsqu'il y fut, chacun, silencieux, attendit ce qu'il allait dire, avec une espèce de terreur, car tous ses mouvements avaient été empreints de cette douleur profonde que l'on rejette dans chaque geste, comme si l'âme voulait la secouer. Monsieur Gérard, trop abattu, gardait le silence. « Qu'as-tu, mon Gérard ? » dit sa femme. « Ah, qu'as-tu, mon petit père ? » dit Annette. « Qu'avez-vous, mon bon oncle ? » s'écria Charles. Tout cela fut prononcé en même temps, et tous trois regardèrent Monsieur Gérard. « Je suis destitué, » répondit-il d'une voix faible. « Ainsi, ma pauvre Annette, plus de leçons de piano. Ainsi, ma femme, plus de voyage à Valence. Ainsi, Charles, il faudra penser à te faire un sort plus vite que je ne le comptais. Et du reste, fions-nous à la Providence qui n'a pas laissé la veuve et l'orphelin sans secours. « Mon père, » dit Annette en embrassant Monsieur Gérard, « que rien ne soit changé. Avec ma dentelle, je pourrais gagner beaucoup. Quant au piano, j'étudierai toute seule en me levant plus matin. Quant au diplôme de mon cousin, j'ai des petites économies. Vous aurez une retraite, eh bien, nous n'en serons que plus fixes, et vous n'aurez plus à trembler pour votre place. » Charmant enfant, s'écria le vieillard. Qu'est-ce qui est nommé à votre place ? Demanda le jeune homme avec une vive curiosité. Le connaissez-vous ? C'est un monsieur de la Barbotière, répondit Gérard avec un geste d'humeur. À ce nom, Charles parut étonné, mais personne ne s'en aperçut. « Notre voyage à Valence sera donc encore remis ?» dit Madame Gérard en regardant Annette. « Et nous ne pourrons pas revoir mon pays ?»« Nous examinerons cette affaire-là quand ma pension sera réglée, » répondit Monsieur Gérard. Dès ce moment, l'ex-sous-chef prit une manière de vivre qui combla à peu près le vide opéré par son défaut d'occupation. Le lendemain de sa destitution, il se leva encore à la même heure, s'habilla et partit pour son bureau. Ce ne fut qu'à moitié chemin qu'il se rappela qu'il n'était plus employé. Il aurait volontiers offert de travailler gratis, mais Charles Servigné lui trouva des occupations qui le ravirent de joie. En effet, dès lors le père Gérard ajouta à son costume un parapluie, et il s'en allait tous les matins aux audiences pour écouter plaider. Il devint tellement assidu et si connu que souvent, dans les affaires importantes, les concierges lui gardaient sa place. De l'audience, il se rendait aux cours publiques et écoutait les professeurs, entendait quelquefois plusieurs cours de chimie, éprouvait une véritable satisfaction à voir M. G discuter sur la valeur de tel mot grec et M. A sur tel mot français. Il courait, comme au feu, à toutes les expositions gratis de tableaux et d'objets d'art. Il ne manquait jamais les cérémonies publiques, l'ouverture des chambres, les séances. Et lorsque tout cela lui faisait défaut, il allait observer dans les ventes comment les marchands poussaient ce que les bourgeois veulent acheter et comment ils s'entendaient entre eux. Il revoyait 20 fois les tableaux au musée, les animaux empaillés du muséum, les travaux publics, la parade à midi au château. Et il disposait sa journée pour toutes ces choses-là, comme un homme d'affaires pour ses rendez-vous. Ainsi, s'il rencontrait un ami, il s'empressait de le quitter en lui disant « Il faut que je sois à midi au Collège de France et à 3 heures au palais. » Ou bien, si on le voyait faire faction à l'un des guichets des Tuileries, il répondait « J'attends la sortie de tel ou tel prince. » Mais le comble de sa joie était lorsqu'il y avait aux Champs-Élysées quelques belles parties de boules. Il suivait les joueurs et les boules avec une ardeur sans égale. Et cependant, une aventure fâcheuse le priva de ce spectacle. En effet, un jour qu'il était en sueur pour avoir couru avec 2 joueurs intrépides, il se trouva que le jeu avait été si animé que toute la galerie ambulante avait fini par déserter. Le père Gérard vint seul contre Marbeuf avec les 2 virtuoses. Un coup difficile à décider survint, et les 2 joueurs, s'en rapportant à l'avis du père Gérard, il arriva qu'il fut obligé d'avouer qu'il ne savait pas le jeu, de manière qu'il n'osa pas retourner au carré du jeu de boules. Pendant qu'il s'amusait ainsi, on régla sa pension d'une manière avantageuse, si bien qu'avec son indemnité, les arrérages de sa pension, les économies de sa femme, celles de sa fille et l'emploi de son capital, il se trouva posséder, sa pension comprise, autant de revenus que lorsqu'il avait sa place. Alors, il renonça à aller avec sa femme à Valence, et il fut convenu qu'elle irait avec Charles et Annette aux vacances prochaines, si d'ici là, on économisait assez pour fournir aux dépenses d'un voyage d'un si long cours, pour lequel Madame Gérard s'apprêtait, comme s'il se fût agi de passer l'équateur. Le père Gérard, qui n'était jamais sorti de Paris, ne se soucia nullement de se hasarder à un tel péril à son âge, et il devait, pendant l'absence de sa femme, se mettre en pension chez une voisine pour plus d'économie. Chapitre 2. Annette, dont il a été question dans le chapitre précédent, était une jeune fille de 18 à 19 ans. Madame Gérard, sa mère, l'avait nourrie elle-même parce que, dans le temps où elle accoucha d'Annette, Monsieur Gérard s'était hasardé à lire « L'Émile » de Rousseau, dont les principes triomphaient alors. Annette fut donc toujours élevée sous l'œil de sa mère et selon les principes du philosophe genevois. Ainsi, elle ne fut pas emmaillotée, son corps ne fut comprimé par aucun lange et le sang des Gérard coula, comme bon lui sembla, dans les veines d'azur qui nuançaient la peau d'Annette. Madame Gérard, étant née dans le Midi, avait cette piété aveugle qui reçoit tout sans raisonner. Sans être méchante et acariâtre, elle était d'une dévotion achevée et remplissait toutes les obligations imposées par l'Église avec une rigidité exemplaire. Elle ne s'informait jamais de la conduite des autres, ne jugeait point sur les apparences, ne croyait qu'au bien, ne se mêlait de gouverner qui que ce fût au monde, et ne s'inquiétait que de son âme et de celle dont elle se croyait responsable devant le Seigneur. Ainsi, Annette fut élevée par un jeune abbé marseillais dans les salutaires principes de la foi chrétienne, et de bonne heure, elle fut accoutumée à ne jamais manquer à se rendre à la grand-messe, à vêpres, complies, etc. Néanmoins, le jeune abbé avait une grande âme, ambitieuse, une de ces âmes, enfin, qui ne doivent rien concevoir de petit. Il était chrétien par conviction et non par grimace. Aussi voyait-il dans les prières d'habitude autre chose que des mots lancés dans l'air. Il entendait le principe religieux à la manière de Fénelon et de Madame Guyon, et leur extase profonde, leur anéantissement devant un principe infini, formait le fond de sa doctrine. Cette religion plut beaucoup à l'âme d'Annette, et de bonne heure mit dans son caractère une élévation sourde et cachée qui ne pouvait se montrer qu'aux observateurs les plus attentifs ou dans les plus grandes circonstances. Dans la vie privée et insignifiante que menait Annette, on la voyait simple, unie, attentive à plaire, bonne à tout le monde, et orgueilleuse parfois de cet orgueil qui n'agit point sur les choses d'apparat. Son cousin, Charles Sévigné, qui l'aimait, lui apporta le jour de sa fête un présent. C'était une montre de femme, et le bijou était assez précieux. Annette, rouge et presque fâchée, lui jeta sa montre, et prenant une fleur du bouquet de son cousin, elle la garda avec une espèce de culte. Monsieur de Montiver, l'abbé qui dirigea avec complaisance son éducation, lui donna une instruction de femme. Il lui laissa lire tous les bons auteurs de notre littérature et les plus fameux des littératures étrangères. Il permit d'aller au théâtre, voir représenter les bonnes pièces de nos grands auteurs, et prit un véritable plaisir à instruire Annette sommairement sur tous les points, de manière à ce qu'elle pût remplir son rôle de femme dans telles conditions que le sort voulut la placer. Marchande, elle aurait été une femme active, prudente, soumise. Mariée à un homme ambitieux, elle l'aurait poussée vers les grandeurs. Simple bourgeoise, elle se serait conformée à sa situation médiocre. Femme d'un grand, elle aurait paru dans un éclat nullement emprunté. Et comme un arbre à peine remarqué dans la forêt, devenu vaisseau, elle aurait marché sur la mer en souveraine. Néanmoins, Monsieur de Montiver ne put empêcher Annette d'être un peu superstitieuse et craintive, aimant la recherche et l'élégance plus qu'il n'est permis à un chrétien qui doit mépriser toutes les superfluités de la terre. Elle avait même un attrait, une grâce et des manières de femme, qui l'aurait fait prendre pour une jeune personne pleine de coquetterie, si on ne l'eût pas connue parfaitement. Cependant, Annette Gérard, toujours simplement vêtue, aimée de son cousin, ne cherchait pas à faire ressortir tous ses avantages, comme les Parisiennes en ont l'habitude. Elle n'était même pas belle, mais elle avait une de ces figures que l'on ne voit pas avec indifférence. Sa physionomie était spirituelle, et néanmoins annonçait plus de génie de femme que d'esprit. Ses traits manquaient de régularité. Sa bouche était grande, mais personne ne serait resté froid en voyant son sourire. L'expression de ses yeux de feu et la singulière beauté qui résultait de l'accord de sa chevelure noire avec un front d'une blancheur d'herbe flétrie. Blancheur que les Grecs exprimaient d'un seul mot et dont un de leurs empereurs apportait le surnom. Cette couleur rare est l'indice de la mélancolie jointe à la force, mais une force qu'il faut encore distinguer, en ce qu'elle ne se montre que par éclair. À l'âge où était Annette, elle ignorait elle-même son caractère, et vivait dans une étonnante simplicité d'existence. Travailler à côté de sa mère, partager son temps entre l'église et ses occupations de femme, voir dans son cousin un époux sur le bras duquel elle s'appuierait pour faire route dans le chemin de la vie, se maintenir dans une pureté extraordinaire de pensée et d'action, réaliser l'idée d'une sainte, telle était, en peu de mots, l'histoire de sa conduite. Elle n'avait en perspective rien de ce qu'on appelle dans le monde des plaisirs, car, imitant la rigidité sainte de sa mère, elle n'avait été que rarement au spectacle, et regardait ce divertissement comme une souillure, dont chaque fois elle s'était empressée de se purifier. Enfin, ne portant sa disposition à la grandeur que dans sa manière d'envisager le principe religieux, et suivant la pente de l'esprit des femmes, qui court toujours à l'extrême, elle avait fini, à l'époque où nous sommes, par tomber dans la doctrine sévère des catholiques purs, qui vivent comme des solitaires de la Thébaïde. Cette grande pureté qu'elle avait dans l'âme, et dont on doit avoir rencontré plus d'un exemple parmi les jeunes filles de cette classe de la bourgeoisie, Annette la supposait dans tous les cœurs. Mais aussi, par cette croyance touchante, elle était portée à donner à une action, simple en apparence, pour un autre, une extrême importance. À juger un être sur un mot, sur une action, une pensée, et tout en le plaignant, lui retirer son cœur. Ainsi, on aurait pu lui dire 1000 fois que son cousin Charles Servigné était comme tous les jeunes gens de Paris, courant après le plaisir, et d'autant plus que par sa modique fortune, sa pauvreté même, il lui était interdit d'y songer, que le prix de la dentelle qu'elle faisait avec tant de peine en se levant si matin et qu'elle lui donnait servait à quelque partie dont il est difficile qu'un jeune homme se prive, Annette n'en aurait rien cru. Il n'en serait même pas entré dans son âme un seul soupçon contre son cousin. Mais que Charles Servigné eût manifesté quelque action, que sa conduite manquait de pureté et de droiture, s'il eût été assez maladroit pour le faire apercevoir à sa cousine, Annette, après quelques avis sages, aurait été éloignée de lui, par lui-même, et pour toujours, sans cesser de l'obliger. Depuis qu'elle avait trouvé le moyen de gagner quelque argent avec sa dentelle, elle s'était fait un bonheur de n'être plus à charge à son père, et elle avait pu satisfaire ses goûts sans crainte et sans reproche. Sa modeste chambre était même devenue trop élégante pour la fille d'un sous-chef. Ce petit appartement donnait dans l'antichambre, comme on a pu voir dans le chapitre précédent. Par conséquent, il se trouvait dans l'angle de la maison, qui, par hasard, faisait le coin de la vieille rue du Temple avec la rue de l'Échaudé. De manière qu'elle avait l'une de ses croisées sur la vieille rue du Temple et l'autre sur celle de l'Échaudé. Mais, comme les deux appartements du bas étaient d'une très médiocre hauteur, ces croisées ne se trouvaient pas à plus de 20 pieds du sol des deux rues, si bien qu'un homme monté sur une voiture aurait pu atteindre à son balcon. Ces détails, nécessaires pour l'intelligence de ce qui suivra, doivent faire connaître la maison parfaitement. Or, ce petit appartement d'Annette était tenu avec une propreté d'ange. Elle souffrait rarement qu'on y entrât, et sa mère tout au plus en obtenait la faveur. Cette pièce carrée était ornée d'un tapis bien simple, mais toujours net et comme neuf. Les croisées avaient des rideaux de mousseline qu'elle broda de ses mains, et que, sans faste, elle avait attaché, par des anneaux, à un bâton doré, de manière qu'il flottait à grands plis. Les meubles étaient de noyer, mais recouverts d'étoffes de soie blanche. Tout autour de l'appartement, des jardinières étalaient le luxe des fleurs charmantes, et c'était là la plus grande dépense d'Annette. Hiver comme été, il lui fallait des fleurs, et lorsque la nature faisait défaut, elle avait des fleurs artificielles, légèrement parfumées. Sa couche virginale était dérobée à tous les yeux par des rideaux doubles de mousseline, et chez elle, aucun meuble parlant ne s'offrait aux yeux en apportant quelque idée malséante. Du plafond pendait une coquille d'albâtre qui, la nuit, jetait une lueur vaporeuse. La cheminée était de marbre blanc et ornée d'albâtre. Dans ce séjour de la virginité, on respirait un air de sainteté qui saisissait l'âme. Un doux esprit semblait vous murmurer que rien d'impur ne devait entrer là. On y était tranquille et on jouissait de soi-même sans distraction. Il eût été difficile de décider si c'était un lieu de recueillement ou un lieu de récréation et de plaisir. L'âme d'Annette paraissait voltiger autour de vous, en parlant ce langage de pureté qui décore le discours d'une telle jeune fille. Depuis la destitution de son père, cette charmante enfant se levait à 4 heures du matin, et jusqu'à 8 heures, consacrait ce temps à faire une superbe robe de dentelle dont la duchesse de N lui avait donné le dessin. Elle espérait la vendre assez cher à la duchesse pour pouvoir payer l'impression du savant ouvrage sur lequel son cousin comptait pour obtenir une grande célébrité et marcher à la fortune. Et cette robe devait payer aussi leur voyage à Valence. Sachant que le duc de N protégeait Charles, elle espérait pouvoir lui faire parler par la duchesse, et cette recommandation, jointe au mérite de son cousin, devait le faire avantageusement placé au moment où l'on organisait l'ordre judiciaire, et que de grands changements allaient s'y opérer par suite des derniers événements de 1815. Le cœur lui battait à mesure qu'elle avançait. Enfin, un matin, elle courut porter à la duchesse la robe demandée, et elle en reçut un prix inespéré. Quelle joie et quel moment pour elle! Quand, arrivant à déjeuner à l'instant où, réunis autour de la table de famille, tous commençaient à s'inquiéter de sa course matinale, elle entra, s'assit, et rougissant de bonheur, elle dit à Charles « Charles, voici tout ce qu'il te faut, et nous, voici pour notre voyage. » Elle le dit avec cette simplicité et cet air de satisfaction qui double le prix de ces sortes de demi-bienfaits que les honnêtes gens appellent des devoirs. Et elle crut en tirer 1000 fois trop de salaire quand on lui fit raconter à quelle heure elle se levait et comment elle travaillait. Et que le bon père Gérard fut étonné de n'avoir jamais rien entendu, lui qui s'éveillait 6 matins pour faire sa barbe et lire son journal. Charles ne tarda pas à jouir du succès qu'il attendait, et le duc de N lui témoigna, d'après cet effort de talent, assez d'amitié pour qu'il lui fût permis d'espérer d'être bientôt nommé à quelque emploi dans la magistrature amovible, celle qui offre le plus de chance aux ambitieux, en ce qu'il y a plus d'occasion de servir le pouvoir. Alors il jura à Annette que toute sa vie il se souviendrait de ce bienfait et qu'il lui vouait une tendresse que rien ne pourrait étouffer. « Oui, chère cousine, lui disait-il les larmes aux yeux, vous pouvez compter que je n'aurai pas de relâche que je ne me sois rendu digne de vous. Ce n'est pas assez de l'union que nous avons formée dès notre jeune âge. Votre mari saura payer les dettes du cousin, et savoir si bien faire une honorable fortune que vous soyez à la place où vous appellent vos talents et vos vertus. Cela ne mérite pas tant de reconnaissance, et je serais malheureuse, Charles, si je devais votre amour à une si faible chose. » Pendant cette scène, le père Gérard serrait la main de sa femme et sentait quelques larmes dans ses yeux en regardant Annette. Un mois après, Madame Veuve Sérvigné écrivit à Charles qu'elle était sur le point de marier sa sœur, à laquelle elle donnait en dot la maison de commerce de mercerie qu'elle avait été forcée d'entreprendre pour vivre à Valence, et que c'était l'occasion ou jamais de venir avec sa tante et sa cousine à Valence. Cette fois, le voyage fut irrévocablement fixé sans aucune remise. Et le père Gérard vit avec plaisir que le reste du prix de la robe de dentelle suffirait aux frais du voyage. On mit donc dans une bourse les 830 francs d'Annette, et il fut décidé que le 1er juin, l'on partirait pour la Provence. Annette combattit longtemps pour que l'on ne partît que de deux. Mais quand on la força d'en dire la raison, et qu'elle avoua que c'était à cause du vendredi qui tombait le 1er juin, on se moqua d'elle, et M. Gérard insista pour cette époque. La veille du départ, Mme Gérard fit venir la voisine, à laquelle elle confiait son pauvre Gérard, et elle lui tint ce discours. « Ma chère madame Partouba, ayez soin de ne jamais donner du veau à M. Gérard, car voyez-vous, cela le dérange, au point que lorsque j'ai le malheur de le laisser aller dîner en ville et qu'il en mange, eh bien, ma voisine, pendant 15 jours... » Ici, Mme Gérard baissa la voix et parla à l'oreille de sa voisine. « Oh, c'est bien particulier !» s'écria la voisine. « Je n'aurais jamais imaginé cela. C'est étonnant. Je savais bien que le veau sur certains estomacs produisait... » La voisine parla à l'oreille de Mme Gérard. « Mais je n'aurais jamais cru qu'il causât... Ah, ma voisine !»« C'est comme je vous le dis, » reprit Mme Gérard. « Ah, ma voisine, soyez tranquille, il ne mangera que du mouton. » Le feu que la voisine mit à prononcer cette phrase inquiéta Mme Gérard, qui, toute dévote qu'elle était, regarda Mme Partouba d'un air inquisiteur. Elle eut un instant peur de confier son Gérard en des mains assassines, mais elle continua. « Ne souffrez pas non plus qu'il sorte sans mettre du liège dans ses souliers et sa noix dans la poche de son habit. Faites en sorte qu'il se couche toujours à 8 heures et qu'il ne se permette aucun excès, comme de boire de la bière ou prendre une demi-tasse quand il va voir jouer au billard au café turc. Emmenez-le bien à la messe le dimanche, car quelquefois il fait l'esprit fort et ne va qu'à une messe basse. Au surplus, ma voisine, « je suis parfaitement bien tranquille avec vous. »« Oh, ma voisine, vous pouvez voyager sans crainte. Monsieur Gérard sera chez moi absolument comme s'il était avec vous. » Cette phrase ne calma guère les soupçons de Mme Gérard, qui s'en remit à Dieu et à sa sainte protection. Là-dessus, Monsieur Gérard, sa canne, son parapluie, etc., furent remis S-main de la voisine, avec un cérémonial presque pareil à celui dont on a dû user pour remettre une de nos places fortes à la garde de nos alliés. Le lendemain matin, M. Gérard n'avait garde de manquer d'accompagner sa famille aux diligences de la rue Montmartre, car il n'avait pas encore eu le coup d'œil du départ des diligences, et il s'en faisait une petite fête, qui compensait ce que l'adieu à sa femme pouvait avoir de douloureux. On discuta longtemps la question de savoir si l'on irait à pied, mais Annette ayant sagement fait observer que leurs effets coûteraient plus qu'une course à faire porter par 2 commissaires, la famille s'emballa avec les paquets dans un fiacre, et l'on arriva dans la cour de l'hôtel de l'entreprise des messageries royales. La diligence contenait 9 personnes dans la caisse du milieu. Et, attendu que l'on avait retenu les premières, Annette, sa mère et Charles se mirent au fond, laissant les 6 autres places à ceux qui devaient arriver. Alors M. Gérard, qui furetait partout, vint leur apprendre qu'il n'y avait plus que 3 personnes. L'heure de partir était déjà passée, et un militaire licencié sans pension, un peu plus mécontent que ne le porte l'ordonnance, faisait grand tapage en exigeant que l'on partît sur le champ, lorsque l'employé du bureau vint lui dire que c'était une demoiselle et sa femme de chambre que l'on attendait, et que le beau sexe demandait toujours un peu d'indulgence. Au bout d'un gros quart d'heure, arriva un brillant équipage aux chevaux gris pommelés, couverts d'écume. L'on entendit une voix flûtée, montée à 3 tons plus haut qu'il ne le fallait, et qui gémissait de la cruauté des horloges. Une jeune femme descendit, avec un oreiller élastique, et 1000 choses comme un voile vert, un éventail magnifique, des flacons, etc. C'était la femme de chambre. « N'est-ce pas une horreur d'être obligée de voyager par une diligence ?» disait la petite voix flûtée. « Quelle persécution ! Comment ? Mais c'est une infamie ! Enfin, il faut bien s'y soumettre, et vous verrez qu'ils me feront payer une amende. Adieu !» Cet adieu fut dit d'une voix plus douce, plus tendre. Malgré les efforts que fit le père Gérard, Charles et le militaire, pour avancer leur tête, il leur fut impossible de voir quel était le monsieur qui se cachait dans un des coins de la brillante voiture. « Allons, dépêchez-vous !» disait l'employé. « Nous avons attendu. »« Mais !» répondit-elle d'une voix enfaussée. « Vous êtes fait pour cela, mon cher !»« Non, madame !» dit de sa grosse voix l'officier décoré. « Nous ne sommes pas faits pour cela. »« Monsieur !» répliqua-t-elle en montrant une des plus jolies et des plus belles figures qu'il fut possible de voir. « Je ne disais pas cela pour vous !» Elle monta lestement et de manière à ce que l'on pût voir une jambe moulée, un pied très petit et des formes charmantes. Annette rougit en les apercevant. « Ah, quelle horreur !» s'écria l'inconnu en restant sur le marchepied. « Je suis sur le devant !» « Mais c'est impossible, monsieur l'employé. Venez donc voir. » À ce moment, le postillon, la croyant montée, fouetta ses chevaux. Elle fut jetée sur le devant, et la voiture partit, la portière tout ouverte. Aux cris aigus que l'inconnu poussait, on arrêta. Le conducteur, sans l'écouter, ferma la portière, et la voiture marcha d'autant plus vite qu'il y avait 1 quart d'heure et demi de retard. « Ah !» dit l'inconnu en prenant une pause intéressante et en clignotant ses yeux. « Je me trouve mal, je ne saurais aller en arrière. Justine, criez donc au docteur d'arrêter. J'aime mieux courir le risque d'aller en poste et d'être découverte que de rester dans cette maudite voiture. » Alors, la compatissante Annette dit à Charles d'offrir sa place à la jeune et belle inconnue, qu'il accepta avec reconnaissance, en jetant au bel ami d'Annette un sourire protecteur rempli d'une certaine bienveillance. Lorsqu'elle fut assise au fond, elle poussa encore quelques plaintes sur l'odeur effroyable de la voiture, et sur le champ vida un flacon d'eau de vanille distillée. Elle chercha une position commode, fit signe à Justine qu'elle était assez bien placée, le militaire remua la tête en signe de dédain, et l'on traversa Paris au grand galop. Chapitre 3. L'intéressante voyageuse avait fort bien remarqué l'expression du mépris que le militaire manifesta, et elle s'en vengea en ne faisant aucune attention à lui, et prodiguant au contraire les marques de sa protection à Charles. C'est ici le lieu de faire observer que Charles Servigné était bel homme et bien tourné. Nous avons dit que sa contenance prévenait en sa faveur. Alors il n'y avait rien d'étonnant à ce que l'inconnu remercia avec un air très gracieux celui qui venait de lui céder sa place pour un voyage aussi long. Mais les regards dont elle accompagna son discours, l'air dont elle regarda Charles, déplurent singulièrement à Annette, tandis que la rougeur dont le front du jeune avocat se colorait et le feu qui animait ses yeux annoncèrent qu'il était toute joie de plaire à la belle voyageuse, dont la beauté ravissante éclipsait la pauvre Annette, comme un lys éclipse une violette. Mademoiselle Gérard jeta un coup d'œil à Charles, et ce coup d'œil de la vertu impérieuse, sans lui déplaire, le gêna, en le faisant rentrer en lui-même. L'étrangère, qui paraissait fine comme la soie et accoutumée à de pareilles rencontres, s'aperçut de ce jeu muet des yeux des deux cousins et parut se faire un malin plaisir de les désunir. Et, pour que son plaisir fût plus vif, elle chercha à acquérir la certitude de leur tendresse mutuelle. « Ce sont vos enfants, madame ? » demanda-t-elle avec une exquise politesse et un son de voix charmant à Madame Gérard. « Non, madame, » répondit la bonne femme qui aimait assez à causer, « c'est un cousin et une cousine que nous marierons bientôt. » « Et monsieur est votre fils ?»« Non, madame, c'est mademoiselle qui est ma fille. » « Vous ferez un charmant ménage !» s'écria l'étrangère d'une voix réellement séduisante et en les regardant l'un après l'autre, de manière à lancer à Charles des regards de côté qui semblaient le provoquer. Charles, que sa cousine regardait fixement, n'osait se hasarder à contempler cette sirène charmante. Il rougissait comme un enfant, et quoiqu'il eût eu plusieurs aventures, il avait tout l'air d'une novice qui n'est jamais sortie de son couvent. Cette rougeur, cet embarras, était pour l'inconnu un langage plus délicieux cent fois que les éloges les plus outrés. Et, voyant une foule d'obstacles défendre ce jeune homme, son imagination cherchait déjà à les vaincre. De son côté, Charles, à l'aspect de la richesse et de l'élégance des vêtements de l'étrangère, en examinant ses manières, quoiqu'elles fussent affectées et eussent un peu de liberté, pensait que la dame faisait partie de la haute société. L'équipage qu'il avait amené, la défense qui lui était faite d'aller en poste et sur laquelle elle ne s'était pas expliquée, tout confirmait cette opinion, et alors l'attention qu'elle lui accordait le flattait singulièrement. Par instant, lorsqu'Annette quittait les yeux de dessus lui, il contemplait la voyageuse avec un plaisir d'autant plus grand qu'il était comme défendu, et que l'inconnue baissait ses paupières avec une complaisance charmante et le regardait ensuite d'une telle manière qu'il était impossible à Charles de ne pas s'imaginer une foule de choses, de ces choses que pense un jeune homme, et nous ne les expliquerons pas, pour cause. Parfois, le jeune homme s'aperçut que la dame prenait plaisir à le voir. Alors, il s'enhardit au point de la regarder à son tour, sans s'inquiéter de ce que les yeux d'Annette lui disaient. Il n'y avait pas un mot de proféré, et cependant, ces trois êtres comprenaient tout ce qui se passait dans leurs âmes, encore mieux que s'ils eussent parlé. Annette, pleine de finesse, jugea que si elle avait l'air de se contrarier de l'attention de Charles pour l'étrangère, la pente de l'esprit humain le conduirait à chercher à plaire à la voyageuse. Alors elle les laissa se parler des yeux tant qu'ils voulurent et ne regarda plus son cousin. Mais, comme on cherche à défendre ce qui nous appartient, et qu'Annette, d'après son caractère, devait être la plus jalouse des femmes, elle inventa une véritable ruse de femme. Elle commença par prétendre qu'elle était mal dans son coin, et elle offrit à la dame de prendre sa place. La dame, qui connaissait la jalousie d'Annette, d'après le dépit qu'elle avait manifesté en ne regardant plus Charles, ne concevait rien à cette manœuvre de la jeune fille, car Annette, en offrant son coin, mettait précisément sa rivale en face de son cousin, et si bien que leurs genoux se touchèrent et que leurs pieds furent comme entrelacés. Annette feignit de ne rien voir de ce secret manège, et elle se mit à parler bas à sa mère. « Ma chère maman, lui dit-elle, vous seriez infiniment mieux au milieu puisque vous ne dormez jamais en voiture, et j'aurai la tête appuyée à droite au lieu de la voir à gauche comme tout à l'heure. » Au premier relais, Annette changea avec sa mère, de manière que Madame Gérard fut à côté de l'étrangère. Ce fut alors que les dessins d'Annette commencèrent à paraître dans toute leur étendue, et sa rivale fut étonnée de la politique profonde que la jeune fille avait déployée pour une si petite chose. « Mon cousin, dit-elle avec un intérêt extraordinaire, oh, comme vous rougissez et pâlissez par instants, seriez-vous incommodé ? « Non, ma cousine, je suis très bien, je vous assure. » Quelques instants après, Annette, saisissant l'instant où Charles rougissait, dit à sa mère « Voyez donc comme Charles rougit. Je suis sûre qu'il n'ose pas nous dire qu'il ne peut pas aller sur le devant. Moi, cela ne me fait rien. Et même je serai mieux dans son coin. J'aurai la tête absolument comme je l'ai, là. Et de plus, je verrai bien plus de pays à la fois. Tu verras, ma mère, que si c'est moi qui lui dis de venir prendre ma place, il ne le voudra pas, parce que je dois être sa femme et qu'il aurait l'air de m'obéir. » À l'autre relais, Madame Gérard, convaincue que Charles rougissait, exigea qu'il vînt à la place d'Annette, et la jeune fille prit celle de son cousin d'un air de triomphe. Charles était sur le même rang que la dame, dans le fond, et il en était séparé par Madame Gérard. Ils ne pouvaient plus ni se toucher ni se voir, et Annette les embrassait à la fois du même coup d'œil. Elle jeta un regard de supériorité sur l'étrangère, celle-ci se mordit les lèvres, jura de rendre l'appareil et de se venger d'Annette. Charles, de son côté, éprouvant du mécontentement de la conduite de sa cousine, ne lui parla point et s'entretint avec l'inconnue. Quand on s'arrêta pour dîner, il descendit le premier et offrit sa main en tremblant à la voyageuse, qui le remercia par un gracieux sourire. Ce sourire lui parut d'un bon augure, et il semblait lui promettre beaucoup. Charles, après avoir conduit Annette et sa mère dans la salle de l'auberge, demanda au conducteur le nom de cette dame. Alors le conducteur, tirant sa feuille, lui fit voir qu'elle était inscrite sous le nom de « Mademoiselle Pauline ». À ce nom, le vieux militaire dit à Charles « C'est une actrice du théâtre de... » Et il fit un tour à droite en lançant à Charles un regard qui signifiait « Jeune homme, prenez garde !» Alors le conducteur, se penchant à l'oreille de Charles étonné, lui dit avec un air de mystère « C'est la maîtresse du duc de N. Elle voyage sous un faux nom et sans passeport, car il lui est interdit de prendre ce congé-là. Voilà pourquoi elle a été forcée de voyager par la diligence. Monsieur le duc l'a conduite ce matin lui-même à la voiture dans son équipage. Ils étaient venus la veille retenir les places. » Le conducteur s'éloigna. Ce discours fut pour Charles un trait de lumière. Il eut comme une révélation, et vit dans ce voyage le moyen d'arriver à la fortune et à une place brillante s'il pouvait plaire à Pauline et l'intéresser. Il rentra, et loin de se mettre à côté de sa tante et d'Annette, il s'empara avec avidité de la chaise qui était à côté de l'actrice, et Pauline, à son tour, regarda Annette en lui rendant l'air de supériorité par lequel la jeune fille l'avait comme humiliée. Annette, confuse pour son cousin, lui jeta un regard empreint d'une douleur véritable. Il n'osa pas le soutenir et baissa les yeux en feignant de ne pas la voir. Tout le temps du repas, il ne parla ni à sa tante ni à sa cousine. Il chuchota avec l'actrice et leurs discours parurent très animés. En effet, Charles voulut briller par sa conversation. Et brilla. Il fut spirituel, parut passionné, l'était même. Et, à la fin du repas, la courtisane habile lui marcha sur le pied pour le faire taire et lui donner à entendre que dès lors ils étaient d'intelligence et qu'il fallait mettre autant de soin à le cacher qu'ils avaient mis d'empressement à se chercher et à se lier l'un l'autre. Ils sortirent ensemble et parlèrent longtemps dans la cour. À peine Charles avait-il quitté Pauline qu'en se retournant il vit venir Annette. Elle était calme et pleine de dignité. « Charles, dit-elle, je ne suis pas contente de vous. »« Ma chère cousine, répondit-il, j'ignore en quoi je puis vous déplaire. » « En voilà assez, répliqua-t-elle avec bonté. On monta en voiture, et Annette dut être bien contente de Charles, car il fut empressé auprès d'elle et de sa mère. Ne dit pas un mot à Pauline, qui, de son côté, lui jeta parfois des regards de dédain et s'entretint constamment avec sa femme de chambre. Annette fut rayonnante de joie et dupe du manège de l'actrice. Elle chercha à dédommager Charles des soupçons qu'elle avait conçus, en étant affectueuse, expansive avec lui, et revenant par mille choses gracieuses à l'amitié qu'elle avait semblé abjurer un instant. Quand on descendit, À 11 heures du soir, pour souper et se coucher, Charles laissa l'actrice descendre toute seule et ne parut en aucune manière faire attention à elle. À table, il se plaça à côté d'Annette, à laquelle il prodigua ses soins. Il fut même d'une tendresse qui aurait dessillé les yeux à tout autre qu'à Annette, et qui même fit sourire le vieux militaire. Le lendemain matin, quand on se mit en route, Charles se mit dans son coin et parut à Annette accablé de fatigue. En effet, il dormit d'un profond sommeil. Le vieux militaire le regardait avec un air moqueur et semblait rire de l'actrice, qui, à chaque instant, se penchait pour voir Charles et surmonter son propre sommeil pour veiller sur lui, sans pouvoir étouffer dans ses regards un sentiment vainqueur de sa dissimulation. Annette finit par s'apercevoir du manège de ce vieux militaire qui s'était placé à côté d'elle, et un pressentiment terrible la fit frémir. « Mademoiselle a sans doute peu dormi, » dit le malin colonel, « car elle a les yeux bien abattus et la figure fatiguée. « C'est le voyage, » répondit-elle d'un air de dédain. « Alors, » reprit-il, « nous serons privés à Valence du plaisir d'applaudir votre admirable talent, car ce soir vous serez encore bien plus fatiguée, et vous n'avez guère de temps à rester dans votre patrie. »« C'est vrai, » répliqua-t-elle sèchement. « Oh, il y a des grâces d'État !» ajouta malignement le rusé militaire avec un sourire moqueur. Pauline, vaincue par la fatigue, s'endormit bientôt, ainsi que sa femme de chambre. Alors Annette, que les paroles du militaire avaient singulièrement alarmée, lui demanda bien timidement. « Monsieur, oserais-je vous demander quelle espèce de talent possède cette dame ?»«
C'est une actrice !» répondit le colonel.
À ce moment, Charles murmura bien faiblement le nom de l'actrice, mais avec un accent qui jeta dans l'âme d'Annette une glace presque mortelle. Il se fit en elle une révolution terrible, et elle regarda le militaire d'une manière qui lui inspira de l'effroi et de la pitié.
« Mademoiselle, dit-il tout bas, j'avais averti votre cousin par un mot, mais on ne peut pas empêcher les folies de la jeunesse. Écoutez-moi, je suis père et j'ai une fille presque aussi aimable et aussi vertueuse que vous me paraissez l'être. Je serais fâché de lui donner un caton pour mari. Mais si un jeune homme qu'elle dut épouser lui donnait le spectacle d'une faute, et qu'elle ne put pas croire son mari le plus vertueux des hommes, j'aimerais mieux me brûler la cervelle que de lui donner un époux dont elle connaîtrait les aventures de jeunesse. Ainsi, je crois devoir vous dire que votre cousin n'est plus digne de vous. »
Annette versa quelques larmes. « Mais comment le savez-vous » dit-elle. « Tenez !» répliqua le colonel. Il tira de son sein et remit à Annette une bourse bien connue. Cette bourse contenait le reste des 830 francs en or que la jeune fille avait consacrés au voyage de Valence. « Vous pouvez dire hardiment à votre cousin que vous êtes entré ce matin à 4 heures dans sa chambre et qu'il n'y était pas, que vous avez trouvé...
« Je ne dirai point cela !»
s'écria Annette avec horreur.
« Et que ferez-vous pour le confondre ?» demanda le militaire.
« Rien !» dit Annette. « Hélas » murmura-t-elle. « Nous sommes partis un vendredi, jour de malheur, et dans ce fatal voyage, vous verrez que ce ne sera pas le seul fâcheux événement dont je serai la victime. »
En ce moment, on était sur le point de descendre une montagne, lorsque l'on entendit le bruit d'une voiture qui paraissait aller extrêmement vite. Ce bruit, dans la situation d'âme où était Annette, retentit dans son cœur en le faisant battre comme de peur. Elle craignait tout, la pauvre petite. C'était une calèche, très élégante et légère, qui semblait voler. Elle passa comme un éclair, et Annette frémit en la suivant des yeux, car elle lui vit descendre, au grand galop, une côte presque à pic. Elle s'intéressait aux personnes que contenait le char, comme on plaint les passagers d'un bâtiment qui périt. mais en voyant la brillante calèche atteindre le bas de la montagne, elle rentra dans la voiture, tranquille sur leur sort. Tout à coup, elle entend un choc terrible. Les chevaux poussent un gémissement lamentable, des voix confuses crient au secours. Alors, Annette, effrayée, regardant avec précipitation, ouvrit par sa brusquerie la portière qui n'était pas bien fermée, tomba à terre sans se faire de mal et courut avec rapidité au secours des malheureux qui venaient de tomber dans une fondrière, car il lui fut impossible de retenir cet élan d'humanité qui remplit le cœur à l'aspect de l'infortune.